Allez, on va démarrer. Donc, on va quand même essayer de lire cette partie 9 à 16 pour se la remettre en mémoire. En sachant qu'en fait, dans la toute première partie qu'on a commencée, il y a deux arguments. Celle qu'on a étudiée la fois dernière et puis celle-ci. Donc j'aurais pu couper le texte là, voilà, faire un questionnaire uniquement sur la première partie, mais finalement ça n'a pas de sens puisque ça forme un tout. Donc les deux arguments font partie du même premier point qui tente à démontrer qu'il n'a pas blasphémé contre Dieu et que lui, il est comme Abraham, il sait, il a la même foi, etc., etc. Voilà, donc si quelqu'un veut lire 9 à 16...
J'y vais.
Oui.
Les patriarches jaloux de Joseph le vendirent pour être emmenés en Égypte. Mais Dieu fut avec lui et le délivra de toutes ses tribulations. Il lui donna de la sagesse et lui fit trouver grâce devant Pharaon, roi d'Égypte, qu'il établit gouverneur d'Égypte et de toute sa maison. Il survint une famine dans tout le pays d'Égypte et dans celui de Canaan. La détresse était grande, et nos pères ne trouvaient pas de quoi se nourrir. Jacob apprit qu'il y avait du blé en Égypte, et il y envoya nos pères une première fois. Et la seconde fois, Joseph fut reconnu par ses frères, et Pharaon sut de quelle famille il était. Puis Joseph envoya chercher son père Jacob et toute sa famille, composée de 75 personnes. Jacob descendit en Égypte où il mourut, ainsi que nos pères. Et ils furent transportés à Sichem et déposés dans la sépulture qu'Abraham avait achetée à prix d'argent des fils d'Amor, père de Sichem.
Voilà, donc après on bascule dans une deuxième partie importante du discours. Ok, bon, tout ça correspondait un peu aux questions
11, 11, 12.
Oui. Même 9, je pense, à partir de 9. Oui. Ok, je pense pour avoir une idée. Alors, bon, donc cette deuxième partie de la première partie, si vous voulez, cette péricope, on entre dans le discours de défense prononcé par Étienne devant le Sanhédrin. Sauf que je ne suis pas au bon endroit. Voilà, voilà. Oui, donc voilà, je voulais dire un mot sur les versets 9 à 16 quand même en intro, puisqu'on n'a pas eu l'occasion de le faire la fois dernière. Ces versets-là introduisent l'histoire du séjour en Égypte. Étienne le fait au travers de la figure de Joseph, la grande figure de Joseph, et son rôle dans l'histoire des Hébreux. Il souligne également, tout au long de cette partie, la manière providentielle dont Dieu favorise le clan de Jacob, Jacob-Israël, rappelons-le, sa croissance et son devenir en Égypte comme peuple. Donc voilà un petit peu ce sur quoi va porter cette partie. Alors voilà, qu'est-ce qu'on apprend dès le verset 9 ?
Jaloux de Joseph.
Ah oui, ça commence.
Ça commence bien. Fort, hein.
Voilà. Donc on dirait le ton est donné. Hein. Et le ton est donné parce que... Oui ?
Parce qu'on parle de... Il parle de Joseph. Les autres sont jaloux de Joseph, mais eux, les... sont aussi jaloux d'Étienne, plus ou moins.
Il y a un lien à faire. C'est clair que derrière cette histoire de Joseph, il y a une accusation contre les autorités, en tout cas. Donc le ton est donné, et on pourrait dire que d'un projet d'assassinat, c'est-à-dire les frères, au début, si vous avez relu les textes de la Genèse, ce qu'ils veulent, c'est le tuer. C'est pas le vendre.
Au départ.
Mais c'est Ruben qui défend sa cause et qui souhaiterait qu'on ne lui fasse pas de mal. Donc, d'un projet d'assassinat, c'est-à-dire le mal par excellence, hein, Cain, Abel, on voit tout de suite ce que ça peut donner, eh bien, peut sortir un bien, car tout est toujours entre les mains de Dieu, finalement. Étienne donc fait référence ici très précisément à Genèse 37, à partir du verset 11 et toute une série des versets qui suivent ont trait à cette histoire. Alors bien sûr, à la lecture de ces quelques indications du verset 9 et de ce qui va suivre, on ne peut pas s'empêcher de voir derrière la figure de Joseph celle du Messie. C'est-à-dire que sa mort, celle du Messie, apporte le salut à l'humanité, de même que pour Joseph, d'une attitude mortifère, d'un projet de crime, ou de sa vente comme esclave, plus le mensonge à Jacob comme quoi il serait mort, eh bien vient le salut de tout le clan de Jacob, justement. Donc l'Israël d'alors, si vous voulez, c'est-à-dire les 75 personnes, ou 70 selon la version hébraïque. Donc c'est là qu'on voit... C'est là qu'on voit qu'Étienne suit la Septante, la version grecque, parce qu'elle cite la version grecque, alors que si c'était en hébreu, il n'aurait parlé que de 70 personnes, 70 personnes. Fermons la parenthèse. Donc, je reviens à ça. Donc, de quoi sont-ils sauvés ? Ben, ils sont sauvés de la famine, c'est 75, et ils s'installent en Égypte, sous la protection de Joseph, qui lui est devenu quand même vice-roi, si vous voulez, gouverneur du pays, le second après Pharaon, si vous voulez. Donc c'est un véritable accomplissement, si vous avez relu les textes de la Genèse, du fameux songe de Joseph quand il avait 16-17 ans, et qui racontait à son père, à sa mère, à ses frères, qu'un jour,
il se prosternerait
devant lui. Et quand on relit toute l'histoire de Joseph dans la Genèse, on voit effectivement qu'au premier voyage, tous ses frères qui ne le reconnaissent pas sont obligés de se prosterner devant lui pour obtenir un petit peu de blé, pour pouvoir repartir en Canaan avec, etc. Donc, voilà, c'est comme ça qu'on voit aussi que Dieu est Dieu et qu'il maîtrise l'histoire et que d'un projet de crime ou d'une vente en esclavage, il apporte finalement le salut à tout le monde. Alors bien sûr, comme Lynn l'a dit, en choisissant de citer cette histoire de Joseph, d'abord on peut se demander si Étienne n'accuse pas indirectement les autorités d'avoir été jaloux de Yeshua, leur frère, et de l'avoir fait exécuter, jaloux aussi des apôtres et des disciples de la nouvelle voie, au point de vouloir leur mort. C'est quand même plusieurs fois qu'on voit que si le Sanhédrin avait pu, ils auraient zigouillé les 12. Bon. Mais ce qui est certain, c'est qu'ils leur reprochent de s'être toujours opposés aux leaders choisis par Dieu. En fait, c'est ça la pointe qui se cache derrière son récit de Joseph, c'est-à-dire, tout comme au temps de Joseph, ses frères, ou même sa mère, son père, ne croyaient pas qu'il était choisi ou élu pour régner, si vous voulez, eh bien, il en est de même pour vous aujourd'hui, avec la nouvelle voie. Vous ne croyez pas que le Christ est ressuscité, déjà, que les apôtres sont les continuateurs de ce que Jésus a fait ou dit et prêché. Donc, en fait, vous vous opposez comme autrefois, vous vous opposez à vos leaders. Voilà, en gros. Bon, c'est quand même assez culotté, il faut le reconnaître. Et ce que dit, finalement, entre les lignes Étienne, c'est pas simplement le temps de Joseph, c'est que tout au long de l'histoire d'Israël, c'est ce qui s'est passé. Israël a préféré condamner ses prophètes les trois quarts du temps, et je pense à trois figures essentielles de l'Ancien Testament, Jérémie, Ézéchiel et Élie, qui ont été soit emprisonnés pour Jérémie, poursuivis pour Élie, poursuivis notamment par Akab et la fameuse Jézabel, bon, etc., etc. Donc les plus grands prophètes ont eu un mal fou, alors qu'ils étaient officiellement prophètes, hein, ils ne s'étaient pas autoproclamés. Donc oui, ils ont eu des problèmes avec les rois, la royauté, etc. Et c'est le cas, sous-entendu, de Jésus, des apôtres et d'Étienne lui-même, qui est là devant le Sanhédrin. Donc il défend sa cause. Et en même temps, il leur redit que c'est à ce Dieu-là qu'il croit. Le Dieu qui a fait ce qu'il a fait avec Joseph, c'est le même Dieu auquel lui croit finalement. Et en tout cas, bon, pour revenir à l'histoire de Joseph, c'est l'attitude, effectivement, des patriarches, c'est-à-dire les 12, les frères de Joseph, oui, les 11 au total, les 11 frères de Joseph, qui sont pourtant donc bien les propres frères, hein, je veux dire, c'est pas des demi-frères, ou etc. Ils ont Benjamin n'est pas dans le coup. Donc ce sera d'ailleurs le cas des Israélites aussi, mais on le verra peut-être dans la prochaine péricope, envers Moïse. Israël s'est rébellé plusieurs fois contre les 12 tribus, contre Moïse, contre la conduite de Moïse, contre même à la limite contre Dieu, parce qu'en s'opposant à Moïse, c'est à Dieu qu'on s'oppose. Donc, on pourrait dire que les plus grands leaders du passé, de l'histoire d'Israël, ont été mal aimés, et puis parfois embêtés, parfois même emprisonnés, etc., etc. Mais alors le texte va nous préciser une chose intéressante dès la fin de cette affirmation de la jalousie des frères de Joseph. Il dit « Mais Dieu était avec lui ». C'est à la fois un constat, c'est vrai, mais c'est aussi une constante dans la vie de Joseph. C'est-à-dire que Dieu, depuis qu'il est tout jeune, Dieu a toujours été avec lui. Donc les histoires des songes quand il avait 16-17 ans, c'est quand même Dieu qui se révèle à Joseph. Lui, apparemment, n'en a pas une grande conscience, peut-être à cause de sa jeunesse. Et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle il raconte ses songes à sa famille, parce qu'il veut comprendre lui-même. Mais comme les autres lui disent, mais non, c'est des conneries, tout ça, ça n'arrivera jamais, hein, etc. Il va devoir continuer à vivre jusqu'à cet épisode où ses frères s'en prennent à lui et le vendent comme esclave. Et puis c'est le silence. Pendant très longtemps, eux n'ont plus vent de quoi que ce soit. Le père, Jacob, croit dur comme fer qu'il est mort. Et donc voilà, ça se déroule comme ça. Mais donc Dieu est toujours présent, et on le voit si on relit tous les épisodes de la vie de Joseph, que dès qu'il est vendu, il y a une protection qui est sur lui. Quel que soit, bon, il est d'abord chez Potiphar, puis il va en prison, puis il finit vice-roi d'Égypte, hein, quand même. Bon, donc on peut se dire que quand Dieu a un plan et quand Dieu a choisi quelqu'un, il ne lâche pas et il va réaliser ce qu'il a prévu, ce qu'il a décidé. Qui se ferait en tout cas. Donc Dieu est et sera auprès de lui bienveillant et protecteur. Et on le remarque, c'est particulièrement vrai dans les périodes d'affliction de Joseph. Des périodes quand même, quand il se retrouve en prison, il rigole pas. Il ne sait même pas s'il sortira, etc., etc. Beaucoup d'épreuves, et on le voit particulièrement en Genèse 39, hein. Donc il y a quand même l'esclavage, déjà. Le fait qu'il est esclave, c'est quand même pas la panacée. Lui qui était le chouchou à son père, on imagine bien. Il y a la prison, et puis dans la prison, il y a des épisodes quand même assez salés. Hein. Il y a ses copains qui se font tuer parce que voilà, ils sont pas... Hein, vous vous rappelez tout ça, les chansons et tout le bazar, ça finit mal pour eux quand même. Donc lui, il doit quand même stresser un peu, hein. Mais il a confiance en Dieu. Et donc, on pourrait dire que Dieu, c'est comme ça que Dieu se comporte avec les hommes. On peut tous bénéficier de sa grâce et de sa bienveillance, en tout cas ce qu'on peut retirer du texte, pour nous, hein, pour nous. Et puis le verset 10, alors, exprime quelque chose de très très fort. Parce que le grec, il le tira, enfin, je ne sais pas ce que vous avez dans vos versions, voilà, et lui donna grâce et sagesse, etc. Donc ces deux verbes, d'abord le premier verbe tirer, en grec c'est il l'arracha. Donc c'est très fort, c'est pas juste un petit coup de pouce, quoi, c'est vraiment, il l'extirpe complètement de la situation. Il l'arrache de toutes ses afflictions et il lui procure grâce et sagesse qui du coup est reconnue, hein, cette grâce et cette sagesse, notamment par le pharaon. Et ça, c'est tout ce qui se dit dans les chapitres 39 à 41 de la Genèse. Alors on peut souligner peut-être ici que, à cause de ce verset, à nouveau, Joseph, celui qui vit pour Dieu, vous vous rappelez ce qu'il déclare quand il est chez Potiphar, qu'il aurait pu succomber, mais il ne le fait pas parce qu'il est attaché à Dieu profondément. Il lui obéit, même quand les circonstances ne sont pas bonnes pour lui. Et il est béni, par conséquent, mais contrairement à la promesse faite à Abraham, il n'est pas béni en Canaan, il est béni en Égypte, pas dans la terre promise. Donc ça, c'est quand même intéressant de voir que Dieu fait, encore une fois, ce qu'il veut, quand il veut, où il veut. Et quand bien même il y aurait la promesse d'une terre promise, Dieu prend soin d'Israël, prend soin de Joseph, si vous voulez, là où il se trouve, c'est-à-dire au cœur d'un régime dans lequel il est lui-même le grand dirigeant, on va dire le premier ministre, le vice-roi du pays. Donc on voit à quel point Dieu l'a tiré, l'a extirpé, l'a arraché aux circonstances pour lui donner une place prépondérante en Égypte. Et puis, bien sûr, Étienne résume très fort et il dit, ben voilà, à cette époque survint une famine dans toute l'Égypte et en Canaan, précise-t-il. Alors, il faut savoir que ces variations climatiques sont fréquentes au Proche-Orient, donc des famines sont récurrentes pour des tas de raisons. D'abord pour les vents qui peuvent être très très chauds et donc assécher même une culture sur pied, on peut dire ça comme ça, ou bien tout simplement pas de pluie au printemps et c'est la fin des haricots, quoi. Donc il n'y a plus rien à bouffer. Et là, si vous avez relu la Genèse de nouveau au chapitre 41, on découvre que ce n'est pas une petite famine juste d'une saison.
Non.
C'est une famine de 7 ans. 7 années durant, il n'y a rien, strictement rien. Heureusement, comme nous le savons par l'histoire de la Genèse, Joseph avait prévu pour l'Égypte en tout cas, et avait amassé des denrées sur les 7 premières années avant que ne vienne la famine. Et on se perçoit donc une chose, c'est qu'on pourrait se poser la question, mais ça survient comment ce genre de truc? Eh bien apparemment, la famine elle est provoquée par Dieu. Donc Dieu a un plan, encore une fois. Et si vous voulez, si quelqu'un l'a sous la main, on peut lire dans le psaume 105, versets 16 à 21, ça va nous éclairer un petit peu. Psaume 105, 16 à 21. Tu l'as ?
Il a fait venir la famine dans le pays et il n'y avait plus de nourriture. Il a envoyé un homme devant nos ancêtres, c'était Joseph qu'on a vendu comme esclave. On lui a attaché les pieds avec des chaînes et on lui a mis un collier de fer autour du cou. Cela a duré un certain temps. Un jour, ce que Joseph avait annoncé est arrivé et ainsi le Seigneur a montré qu'il était innocent. Le roi d'Égypte a donné l'ordre de lui enlever ses chaînes. Le maître des peuples l'a fait libérer. Il l'a nommé chef de sa maison et gérant de toutes ses richesses.
Donc on voit que dans d'autres livres de la Bible, et notamment dans les psaumes, eh bien, on pointe sur Joseph les mérites, mais ces mérites, c'est finalement Dieu qui a poussé, qui a provoqué, qui a orchestré, on pourrait dire, même la famine, pour que Joseph puisse être reconnu comme innocent, dit ce texte que tu viens de lire. Ça, c'est assez intéressant. Donc, il préfère provoquer une famine pour que Joseph sorte de prison et un certain pouvoir et qu'il puisse venir finalement en aide au clan de Jacob par la suite, hein, bien plus tard. Mais tout ça à cause de quoi? À cause de la promesse faite à Abraham. Donc sans la promesse faite à Abraham d'une descendance et d'une entrée en Canaan, d'une possession de Canaan, il n'y aurait peut-être pas eu tout ça non plus. Donc voilà, il faut bien faire le lien avec toutes ces étapes-là. Que se passe-t-il après ?
Eh bien, les frères arrivent.
Hein. Oui, donc la détresse est grande.
Jacob a pris...
Oui.
Il envoie ses fils.
Ok. Donc, ils ont eu vent qu'en Égypte, il y avait de quoi manger. Alors, se tourner vers l'Égypte en temps de famine, pour cette partie du Proche-Orient, c'est assez courant. D'ailleurs, je ne sais pas si vous avez cherché, mais c'était déjà arrivé du temps d'Abraham. Donc, au Genèse 12, verset 10 et suivant, on découvre qu'Abraham a eu le même besoin d'aller chercher à manger en Égypte parce qu'à un moment donné, il n'y avait plus rien à manger en Canaan. Alors qu'il n'est pas encore possédant de Canaan, lui. Hein. Même chose avec Isaac au chapitre 26 de la Genèse. Lui aussi va chercher à manger en Égypte. Et finalement, on pourrait se poser la question, comment ça se fait ? Mais c'est assez normal, parce que la vallée du Nil est une des vallées les plus fertiles du Proche-Orient, grâce à ces fameuses crues annuelles du Nil, qui portent donc des eaux limoneuses. Alors, il faut savoir que le Nil, sa source est très très loin, au niveau des grands lacs en Afrique. Donc, sur ce cheminement de plusieurs milliers de kilomètres, le Nil apporte des terres, ce qui fait que cette vallée du Nil est relativement fertile à l'époque. En tout cas, il est plutôt rare qu'au bord du Nil, il n'y ait plus rien à manger. Donc, sous Joseph, les Hébreux sont situés, donc au moment où Joseph est installé, si vous voulez, avec ses frères, donc au moment de la deuxième venue de ses frères et tout son clan, eux sont installés à l'est du delta du Nil, donc du côté, si vous voulez, droit de la rive du Nil. Au moins là, il y avait une chance de survivre pour soi-même, pour les siens, pour le clan, et pour tout le bétail de ce clan, hein, les moutons, les bœufs, etc. Alors, on peut encore se poser une question sur cette histoire de famine. Quelle est la famine qui frappe Israël au temps d'Étienne ? Parce que, de nouveau, on peut se poser des questions. Pourquoi insister sur des petits détails comme ça ? Pourquoi pas passer plus vite sur l'histoire de Joseph ? Ben, peut-être parce que Amos, un des prophètes, avait annoncé une famine très particulière. Et je vous cite, donc ça c'est au chapitre 8 d'Amos, à partir du verset 11 et 12 d'ailleurs. Il est dit dans Amos, le Seigneur Dieu déclare, « Le jour vient où j'enverrai la famine dans le pays. Les gens auront faim, mais non de nourriture. Ils auront soif, mais non pour boire de l'eau. Ils auront faim et soif d'entendre ce que je dis. Ils iront un peu partout, du sud du pays vers l'ouest, puis du nord vers l'est, pour chercher à entendre la parole du Seigneur, mais ils ne la trouveront pas. » Intéressant, parce que ça veut dire, en tout cas pour Étienne, que peut-être cette parole d'Amos est en train de se réaliser pleinement, puisqu'on ne trouve pas cette parole de Dieu, en tout cas pas au temple, et pas chez les prophètes qui sont muets depuis 4 siècles. Donc où peut-on entendre la parole divine ? Nulle part. Donc pour lui, il est en train de leur dire, en fait, les seuls qui parlent vraiment au nom de Dieu ici, c'est nous. C'est nous. La parole divine retentit de manière messianique, de manière libre et abondante, au travers de cette nouvelle voie du judaïsme inspirée par l'Esprit Saint de Dieu. C'est un peu ce qu'il essaye de leur montrer. Voilà. Alors, bon, passons. Après, il y a l'histoire des 75. Donc, je rappelle, le texte hébraïque parle seulement de 70 personnes. Ça, c'est dans Genèse 46, 27b. Mais, comme Étienne lit, lui, la version hellénique, la 70, il cite le chiffre de 75. En fait, cette liste de la 70 ajoute 5 noms qui sont les 5 descendants de Joseph. Vous voyez ? C'est tout. C'est le détail qui nous montre en tout cas qu'Étienne lisait plutôt le grec et commente cette histoire à partir de la 70. Alors, les descendants de Joseph, ces deux...
Donc ses enfants.
Des petits-fils, en fait, de Manassé, qui s'appellent Machir et Galaad. Et puis, il en a deux d'Éphraïm, deux fils d'Éphraïm, Soutalam et Tam, et enfin Édom, qui est aussi un fils de Soutalam. Voilà. Donc, au fond, dans la Septante, on a privilégié le clan de Joseph. On a essayé de mettre en place... voilà. Le... On ne va pas se disputer là-dessus, ce n'est pas très important. Et puis, alors, au verset 15, on a Jacob, le vieux Jacob, qui, lui, dit le texte, descendit en Égypte. Bon, c'est un petit détail, hein. Mais effectivement, on descend en Égypte. Tout simplement parce que Canaan, avec ses collines, est beaucoup plus élevé que le delta du Nil. Donc, pour aller de Canaan en Égypte, suffisait de suivre la descente pour y arriver. Une différence d'altitude, donc, entre les deux contrées. Et puis, la suite du texte est assez laconique. Hein. Il descendit en Égypte et il y mourut, ainsi que nos pères. Donc là, Jacob, fin de l'histoire. On suppose qu'il a vécu un certain temps quand même avec son fils Joseph, hein, mais le texte ne nous le dit pas là. Il y mourut ainsi que nos pères. Et de qui parle-t-on alors ici ?
Des
frères, oui, les frères de Joseph. Hein. Donc la Genèse ne mentionne expressément que le décès de Jacob au chapitre 49 et de Joseph au chapitre 50. Il ne parle pas des autres frères de Joseph. Hein, voilà. Donc on n'a pas d'indication pour tout ce qui est des autres patriarches. Ce n'est pas très important non plus, mais ça vaut la peine qu'on le sache quand même de qui on parle. Et puis le texte nous dit au verset 16 qu'on les transporta à Sichem.
Qui, tout le monde ou que Jacob et Joseph?
Non, à mon avis, tous les ossements de ceux qui étaient les patriarches.
D'accord.
Alors, le petit problème qu'on a ici avec ce verset 16, c'est que ce n'est pas fidèle au texte de la Genèse.
Ce n'est pas Abraham, c'est...
Oui, Jacob, entre autres. Donc, en fait, je pense qu'Étienne est en train de condenser. Il fait des raccourcis. Des raccourcis qui ne sont pas nécessairement des erreurs. Mais c'est vrai que si on s'en tient au texte de la Genèse, on découvre en effet que Jacob a été enterré à Hébron, dans la caverne de Macpéla. Ça, c'est Genèse 50 qui nous le raconte, hein, dans les versets 12 à 13. Et cette fameuse caverne avait été achetée par Abraham. Donc là, il y a un petit problème dans la lecture. Et Joseph, lui, il a été enseveli à Sichem. Donc ses ossements étaient repris d'Égypte pour aller à Sichem. Et ça, c'est Josué 24 qui nous le raconte, dans le chapitre 24 de Josué. Mais ça veut dire bien après sa mort en Égypte. Les ossements de Joseph et sans doute des autres patriarches ont été ramenés d'Égypte. Ça, on le découvre dans Exode 13, si on va un peu plus loin.
Mais c'est quand ils ont quitté l'Égypte, parce qu'ils sont restés longtemps quand même.
Oui, oui, c'est ça. Donc, une fois la libération intervenue, les Hébreux ont pris tous les ossements de leur patriarche pour ne rien laisser en Égypte. Et donc lui, Joseph, il a été enterré dans un champ qui avait été acheté par Jacob. C'est là qu'il y a une petite difficulté. Et là, effectivement, Jacob avait acheté au fils de Hamor, qui était le fondateur, le père fondateur de Sichem, c'est Hamor. Et Hamor étant décédé, Jacob avait acheté à ses fils une portion de terrain pour le futur, quoi, etc. Ça, c'est dans Genèse 33 qu'on découvre cette histoire-là. Donc, on pourrait dire qu'Étienne suit, grosso modo, la tradition juive en mentionnant le transport de tous les patriarches vers Sichem. Donc, on peut se dire que si la tradition le dit, c'est qu'il y a une part de grande vérité, car la tradition orale juive est très, très forte. Donc, on n'aurait pas raconté des choses qui n'ont pas existé, si on le rapporte. Voilà. Maintenant, il faut qu'on essaye de dégager deux, trois choses de ce texte. Donc, on sait, pour l'avoir vu tout à l'heure, que Joseph est cité avec deux ou trois idées derrière la tête chez Étienne. Rappeler qu'il y a toujours eu opposition, que les autorités, les rois, etc., se sont souvent opposés aux hommes de Dieu, à ceux qui avaient été choisis par Dieu. La deuxième chose, c'était... c'était quoi ?
La famine.
Oui, que Dieu dirige.
Oui,
que
Dieu, en tout cas, tout est entre les mains. Ceux qu'il a choisis, ça c'est clair. Ouais, il ne les abandonne pas du tout, du tout. Donc, on pourrait se dire que de cette histoire... Étienne est en train de démontrer au Sanhédrin
qu'il est sur la même lignée que les autres.
Exactement. Mm-hmm. Donc, que lui, Étienne, mm-hmm. croit la même chose que ce que la Torah dit, mm-hmm. ce que la Torah raconte, que non seulement il le croit, mais il se sent proche de Joseph et d'Abraham, comme ayant été choisi aussi pour ce genre de travail, mais aussi pour porter une parole qui n'est pas la leur, mais qui est celle de Dieu. C'est un peu tout ce qu'il essaye de dire au travers de ce deuxième argument.
Oui, il leur prouve que, quoi que les hommes fassent, Dieu suit son plan. Mm-hmm. Même si on s'oppose, hein, mm-hmm. parce que là, manifestement, ben, il raconte l'histoire là, des frères de Joseph. Mm-hmm. Hein, bon, on fait quelque chose qu'il ne devait pas faire, mais malgré mm-hmm. ça, le plan de Dieu s'accomplit. Ouais. Ouais. Et c'est ce qu'il est en train de leur dire. Hein. Quoi que vous fassiez, de toute façon,
c'est Dieu qui va gagner. D'ailleurs, quand ils sont devant le Sanhédrin, là, et qu'ils disent vaut mieux pour Jésus, ouais. ils disent vaut mieux en tuer un, et si ce n'est pas de Dieu, ben, ça va s'en aller, ouais. ça va s'éteindre.
Oui, oui, oui.
C'était de Dieu.
Ouais. Je pense que de l'ensemble de cette première partie du discours, si on compte Abraham avec dans la démonstration, on découvre que Étienne est en train de leur dire que Dieu a toujours été Dieu bien avant qu'Israël existe. Mm-hmm. Tu vois ? Et qu'au moment où Dieu appelle Abraham, Dieu est déjà Dieu. Abraham a confiance à ce Dieu-là qu'il ne connaît pas, parce que Abraham fait partie d'un clan qui adorait des dieux. Donc la révélation de Dieu comme Dieu unique à Abraham est assez, assez extraordinaire. Comment un homme qui est habitué à adorer des petites statuettes, des machins comme ça, se dit finalement cette voix que j'ai entendue, que je ne vois pas, j'y crois, et je la suis. Et je la suis au point de faire 1000 km pour aller à tel endroit, puis encore 800 ou 900 mm-hmm. pour aller vers Canaan. Quand même assez, assez incroyable, quoi. Donc, ça, c'est une des grandes découvertes. La deuxième chose qu'on peut retirer, c'est que Étienne est en train de leur dire, vous vivez selon des règles, vous faites appliquer des règles au niveau du temple, mais nous, on vit par la foi. Donc, comme Abraham, sous-entendu, hein, comme Abraham, il faut vivre par la foi, et Abraham a toujours adoré Dieu, quelles que soient les circonstances de sa vie. Abraham a rendu un culte à Dieu. Ben, nous aussi, vous vous opposez à nous, vous nous maltraitez, mais nous, ça ne va pas nous empêcher de continuer à croire au Dieu d'Israël, et à Yeshua, son Messie. Voilà, c'est, en gros, c'est ça, quoi. Et puis, peut-être, derrière tout ça aussi, devant cette première partie du discours, on peut découvrir qu'il est important d'honorer les leaders que Dieu nous donne et de ne pas s'opposer systématiquement à eux, puisque, comme vous l'avez dit, de toute façon, Dieu a toujours le dernier mot, parce que lui, justement, c'est l'Éternel. Donc comment pourrait-il changer comme ça et puis faire autrement ? Il est le maître du temps, Il règle les moindres détails de ce timing pour que tout concorde et qu'au moment de la famine, tout le clan de Jacob, le futur Israël, si vous voulez, tout le clan de Jacob est sauvé. Après, bon, ils sont en esclavage pendant 400 ans. Mais j'ai bien relu les textes parce que ça m'avait un petit peu interpellé la fois dernière. C'est très clair dans Genèse 15 qu'Abraham était au courant par Dieu lui-même. Donc, Abraham a su, au moment où Dieu lui fait la promesse de Canaan, il a su qu'il y aurait d'abord une période assez longue d'esclavage, dont les Hébreux seraient par la suite émancipés. Là aussi, il faut une certaine dose de foi, je trouve. Hein, comment tu peux faire confiance à un Dieu qui te dit « Ok, je vais te donner ça, mais en attendant, hein, ta descendance va d'abord être esclave, etc. »
Pendant 400 ans.
Oui.
Ouais, c'est pas...
Et du coup, on peut se demander hein, pourquoi a-t-il fallu ces 400 années d'esclavage ? 430, dit le texte biblique, d'ailleurs. Quelle est la pédagogie de Dieu ?
Et qu'ont il fait là-bas, au niveau foi, etc. ? Ils ne se sont pas mêlés aux Égyptiens.
Non,
et ils n'ont pas pris le culte des Égyptiens.
Parce
il y a quand même eu quelque chose.
Il y a quand même eu deux, trois histoires.
Hein. Ben oui, puisque quand même, après la traversée, la première chose qu'ils font, c'est un Dieu qu'ils connaissent.
Quoi. Oui. Donc, ça laisse des traces, 400 années.
400 années, oui, c'est...
400 années d'esclavage. C'est pas simplement 400 années de résidence où on travaille. Mmh. Et puis ouais, voilà.
Parce qu'au début, il y avait Joseph.
On gagne du pognon. Oui, au début, c'était cool.
C'était sympathique, certainement,
au tout début.
Mais quand ça a changé de pharaon, dit le texte, tout a basculé.
Est-ce qu'ils ont conservé la foi, tu vois ?
En tout cas, il y a quelque chose, puisque quand Moïse revient, il leur dit, mais je viens de la part de l'Éternel, ah bon, ils savent qui est l'Éternel. Voilà. Et ça n'empêche pas d'être pollué par la culture dans laquelle on a baigné depuis 400 ans.
On a des traces, tu vois, de quelque chose dans les livres juifs.
En tout cas, quand ils demandent à partir au Pharaon avec Moïse, ils disent qu'ils veulent aller faire un sacrifice à leur Dieu.
Oui.
Donc, c'est qu'ils croient encore en leur Dieu à eux plutôt qu'à ceux des Égyptiens, même s'il y a Micmac, quoi.
Mais en fait, le problème d'Israël depuis le départ, à part Abraham, hein, c'est qu'il y aura toujours un peu ce mixte entre foi et idolâtrie. Des moments de grande piété et des moments où on retombe plus bas que terre. Parce qu'il faut quand même savoir que l'idolâtrie à l'époque, le culte à Moloch par exemple, c'est quand même un culte de sacrifice humain de nouveau-né qu'on jette dans le feu.
Ouais.
Donc c'est pas le petit... le petit poulet auquel on tord le cou et puis on fait couler un peu de sang et c'est bon.
C'est
les tribus animistes, c'est sympa. Et jeter son nouveau-né à Moloch dans une grande fournaise en voulant amadouer Dieu, quand même terrible. Donc Israël a vécu des choses comme ça. Le culte de Baal et compagnie, on en connaît quelques morceaux dans les livres des rois. Hein. Donc il y a toujours eu cette oscillation entre on suit Dieu et en même temps on se rebelle et on fait encore autre chose. Et souvent à cause de la royauté d'ailleurs. Ce qui a fait, qui a entraîné souvent l'Israël dans l'erreur, c'est les rois. C'est eux qui montrent l'exemple, c'est eux qui obligent, c'est eux qui n'adorent plus Dieu. Et puis... Généralement, il y a une espèce de leçon pédagogique de la part de l'Éternel, un petit coup d'exil, un petit coup d'envahissement, voilà. Et puis Israël pleure, se repent et revient, et puis il dit plus jamais on ne sera idolâtre. Mais en fait, bon, et ça compte. Et finalement, si vous regardez bien l'histoire, jusqu'au temps de Jésus, ça aura été comme ça. Et il faudra. L'anéantissement d'Israël, donc en 70, le déracinement total de tout un peuple, hein, puisqu'il est resté trois fois rien en Palestine, la mise en esclavage du peuple pour qu'Israël s'attache à Dieu. Donc jusqu'à présent, il y a toujours eu des juifs fidèles au judaïsme, fidèles à Dieu. Alors bien sûr, il y a une partie des juifs qui sont athées, humanistes et tout ce qu'on veut, mais énormément de gens sont religieux. Et d'ailleurs, on le voit dès qu'on voyage en Israël. Tu vois des gens à l'aéroport déjà, ou des soldats, ou tous portant la kippa, certains avec les téphilines, etc. Bon. Donc, la pratique juive est toujours d'actualité, à part une certaine minorité qui d'ailleurs n'est même plus politisée. Hein. C'est même plus... Avant, c'était parce qu'ils étaient communistes et compagnie, ou socialistes très très rouges. Mais là, maintenant, c'est un athéisme culturel. Voilà.
Et tu voulais dire, quand je t'ai coupé, tu voulais parler de quelle est la pédagogie de Dieu pour les 400 ans.
Par rapport aux 400 ans. Ouais. Je pense que c'est créer la soif, justement.
Ah oui.
La soif de Dieu. La soif aussi d'être un peuple libre. La soif de Canaan, parce que tous portent la mémoire d'Abraham, donc nécessairement, la promesse est attendue. Et quand Moïse surgit, qui n'était pas un inconnu totalement, hein, quand Moïse ressurgit de son désert, Israël a l'air assez positif. C'est-à-dire, oui, il y a un moment d'étonnement. Mais ils suivent Moïse.
Ouais. Et quand on parle de 400 ans, c'est énorme.
Oui. Ouais.
Parce que, bon, tu peux avoir la foi, etc. 400 ans, c'est presque 16 générations. Hein. Mm-hmm. Donc, il y a quand même une transmission hein, de croyance envers Dieu, etc., qui a quand même dû se faire. Mm-hmm. De génération en génération, pour qu'à un moment
donné, c'est Jésus qui
a eu un réveil avec Moïse.
Oui.
C'est les chrétiens, quand même très... ça fait bien. Hein.
C'est d'autant que si c'est tu te remets bien dans le contexte historique, il n'y a pas encore de célébration de la Pâque, puisqu'elle n'a jamais eu lieu. Pendant ces 400 ans, il n'y a même pas de grande fête
s'accrocher
à la réalité.
C'est juste.
Donc, ils vivent dans l'espérance de la promesse. Ça, c'est assez fou.
Ça, c'était nu.
Mais
ça n'empêche pas qu'il y ait eu des sacrifices.
L'espérance dans la promesse, comme tu dis. Mais une espérance qui est transmise de génération en génération, c'est ça qui est quand même...
Oui.
Enfin, moi,
parce que tu vois, si...
Je réfléchis un peu,
on pourrait
400 ans, tu remontes à 400 ans, nous...
Putain, c'est loin.
C'est loin, oui. Et on n'a plus...
1600.
Qu'est-ce qu'on a gardé, nous,
de 1600.
Notre transmission, oui.
Oufti,
comme tu dis, c'est bon. On parle oufti, peut-être.
Oui, parle
oufti. C'est à ça que je pense. C'est quelque chose, quand même, qui doit être très profond, qui doit être très ancré, vais-je dire.
Alors, c'est pour ça que je le disais tout à l'heure, c'est important de se rappeler que c'est bien à Abraham que le Seigneur a dit... Il y aura ça, mais d'abord il y aura l'esclavage, et puis après.
Oui, mais il l'a dit à Abraham.
Oui, mais donc.
Ça
s'est transmis de génération en génération.
Qui, moi, est quelque chose qui m'interpelle, parce que franchement. On ne s'est pas rappelé, mais.
En tout cas, ça s'est transmis oralement jusqu'à la période de Moïse.
Oui, mais
qui va survenir après.
C'est ça qui est, pour moi, extraordinaire. Parce que. Qu'est-ce qui a été transmis, nous, dans notre génération, etc.
Ce sont les Juifs qui ont ça. Ils ont une transmission orale, très forte, je pense.
C'est normal, il n'y avait pas d'écriture, rien du tout.
Ouais, écoute, je ne suis pas sûr qu'on avait la même transmission, tu vois.
Oui, d'accord, mais un petit exemple que ça m'a toujours frappé. Quand on avait nos téléphones fixes et qu'on n'avait rien du tout... Tu retenais tes numéros de téléphone. Maintenant, tu connais tes numéros de téléphone.
Certains, mais pas tous.
Parfois même pas le sien. Parfois même pas le sien. Et alors qu'avant, c'était automatique. Je connaissais le numéro de téléphone de ma mère, des oncles, des tantes, des cousins, des cousines. Maintenant, tu ne le connais plus. Tu l'as dans ton téléphone, tu cours sur un bouton.
C'est là.
Oui, aussi. aussi. Mais tu pousses sur un bouton. Les jeunes non plus ne le connaissent pas.
Non.
Alors, tandis que la tradition aura été obligée. Et là, c'était quelque chose qui leur tenait à cœur. Donc, ils avaient à cœur de le transmettre Mammon.
Oui.
Moi, je conçois ça. Je ne dis pas très facilement, mais je le conçois bien, quoi, franchement. Déjà, rien qu'à cause des numéros de téléphone, franchement. Mmh. C'est bête, hein, mais c'est des petites choses qui t'aident à comprendre, oui, parfois. Hein.
Mais la transmission peut s'arrêter à un moment donné. Il suffit que quelqu'un...
Oui,
qui ait des gestes.
C'est ça qui me...
Mais quand Dieu a un plan, il...
C'est que, bien sûr, il fait en sorte qu'il trouve une tête qui va le retenir. Ça. Mais 400 ans, c'est énorme. Mmh. Mmh. C'est énorme. Donc,
ce qu'Abraham
a reçu et a transmis a dû être très, très profond dans, comment est-ce que je vais dire,
dans ses descendants. C'était promise, hein, déjà, à l'époque. Hein.
Oui.
Ouais, ça avait été annoncé par Abraham, et tu vois, ils avaient cet espoir. Et puis, bon, puisque ça avait été...
Mais ils avaient aussi la clé.
Oui.
Un espoir.
Mais nous, on a aussi l'espérance du retour.
Ils garderaient un espoir. Ouais. Pas même pas 400, hein. Dans 10 ans.
Quand Dieu a un plan, c'est tout. Ouais. Ouais.
Ouais. Mais les chrétiens restent aussi avec une espérance. Tu vois.
Oui, oui.
Mm-hmm. Oui, mais ça m'interpelle.
Mm-hmm. Ouais.
Et cette interpellation, peut-être divine, finalement. Hein. Mm-hmm. L'explication. Mm-hmm.
Donc, c'est pour ça que je te disais tout à l'heure, je pense que la tradition orale est très importante. Mais surtout, la clé pour l'espérance à ce moment-là, c'est de savoir qu'après l'esclavage, il y a la libération et il y a Canaan. Si Dieu n'avait pas révélé à Abraham en Genèse 15, il aurait peut-être, ça serait peut-être complètement écroulé.
Il a fallu aussi le croire. Lui, je comprends, son descendant comprend, mais le dixième descendant...
En tout cas, si on prend si tu relis La vie de Moïse, par exemple, avant son épopée dans le désert et son retour, on peut se dire qu'il n'y a pas grand-chose qui a été transmis à Moïse. Parce que Moïse, il sait d'où il vient, il sait qu'il est hébreu, fils d'hébreu, etc. Ouais. Mais il a été éduqué complètement dans les sciences de l'Égypte, dans la cour de Pharaon. Ouais. Donc, sa connaissance de Dieu est minime, on va dire ça comme ça. La preuve, c'est que quand Dieu se révèle à lui dans le désert, il découvre. Mm-hmm. Il reconnaît que c'est Dieu, ça oui. Mm-hmm. Mais pour lui, c'est nouveau.
Elle est minime.
Et d'ailleurs, il se dit, moi, je suis pas le bon type pour aller retourner en Égypte.
Mm-hmm. Hein. Ben oui, peut-être que...
Il faut vraiment que Dieu le...
Et toi, en plus, il ne sait pas bien parler. Mm-hmm.
Oui.
Petit détail, hein. Quand même, quand ça va devenir le grand législateur, le grand Moïse, qui savait à peine aligner deux mots, quoi.
C'est
et qui a besoin de son frère.
C'est
Aaron.
Dieu qui nous équipe.
Ah oui, oui, tout à fait. Exactement. Ok, donc on a fini plus tôt que d'habitude, puisque voilà, le bout de péricope qu'on avait là n'est pas très très grand. J'ai hésité à vous réécrire pour dire, on va quand même attaquer l'autre partie, mais bon, soyons raisonnables, j'ai pas eu le temps d'attaquer moi-même la partie suivante. Je voudrais juste dire un mot là-dessus. Donc, on attaquera les versets 17 à 43. De nouveau, on sera peut-être obligé de couper un peu, hein, parce que c'est quand même un long morceau.
On n'y croit pas.
C'est la deuxième partie donc, du discours d'Étienne. Je l'ai intitulé « Les Hébreux au temps de Moïse », ; le déni du blasphème contre Moïse et la loi. Mm-hmm. Donc, dans cette partie, Étienne va essayer de défendre l'idée qu'il ne s'attaquerait jamais à la personne de Moïse et encore moins à la loi, puisque la loi est d'abord une révélation divine. Mm. Bon, maintenant, ça ne veut pas dire qu'il fait la même lecture que le Sanhédrin. Mm. Ça, on le découvrira. Qu'est-ce qu'il met derrière le mot « loi » Qu'est-ce qui fait « loi » pour lui ? Etc. Quoi. Mais donc, il essaie quand même de dire « Mais non, moi, je n'ai pas blasphémé contre Moïse, je ne m'attaque pas à la loi, mais je vais préciser ma pensée. » Donc ça, c'est cette partie assez longue. Donc essayons de lire quand même la totalité. Je préparerai un questionnaire qui survole la totalité de ce passage. Et puis après, on verra, on sera peut-être obligé de s'arrêter sans doute à mi-chemin. Dans le texte, pour une seule soirée, ça fait quand même assez long. Mais c'est d'autant plus long que On ne peut comprendre ces sections du discours d'Étienne qu'en se rapportant au livre de la Genèse ou de l'Exode pour comprendre ce qui se cache derrière le discours d'Étienne. Donc on pourrait dire, oui, c'est peut-être une chose que j'aurais dû dire la fois passée, mais au fond, voilà pourquoi il faut connaître l'histoire d'Israël. Nous. Parce que si on n'a pas ces textes dans la tête, il y a des tas d'autres textes du Nouveau Testament qu'on ne comprendra pas. C'est pas possible. Donc voilà, je pense que c'est aussi important de se convaincre de maîtriser assez bien les livres de l'Ancien Testament et l'histoire d'Israël en particulier, d'être capable d'en avoir quand même la grande trame et de ne pas tout mélanger. Quoi.
Donc c'est ça l'application
de
la première partie du discours, c'est connaître notre histoire.
En tout cas, c'est ce que les Juifs pensent, sincèrement. Ouais. Pour eux, se souvenir, c'est une importance capitale pour interpréter le présent et pour y vivre. Si tu ne maîtrises pas tes racines, tu ne vivras pas convenablement.
En tout cas, c'est ce qu'il y a quelques années, j'avais retenu par rapport aux promesses de Dieu, mais elles se réalisent.
Oui.
Pas dans notre temps.
Donc vous aviez raison tous les deux en argumentant sur l'espérance chrétienne. C'est quoi l'espérance chrétienne ? Ben, c'est croire que le Christ revient. Oui, sinon,
et ça
à quoi
me conforte,
bon.
C'est ça. Et le fait de lire l'Ancien Testament.
Donc que Dieu est toujours maître de l'histoire.
Oui, c'est ça.
C'est le fait de lire l'Ancien Testament, tu te dis, il a toujours tenu ses promesses. Mmh. Il a toujours sorti son peuple. Quand tu vois l'histoire d'Israël, tu te dis, mais c'est pas possible, ils comprennent rien, ces imbéciles. mais bien sûr, nous, on a du recul. c'est incroyable la patience de Dieu, déjà. Mmh. Et la promesse, il la tient. Joseph, l'histoire de Daniel, Gédéon, tout le bazar.
Des promesses qui datent déjà de bien avant Abraham. Abraham, c'est plus le pays promis, mais la promesse, c'est celle qui est faite en Genèse. Ouais. Avec l'histoire du serpent, tu écraseras la tête du serpent. Et donc ça,
c'est la femme qui va écraser la
tête. Oui,
c'est
donc.
Attention, ça, n'est-ce pas? C'est la
fin. Tout ça est en voie de réalisation.
Mais c'est pour ça qu'on lui a fermé la bouche pendant toutes ces années et qu'on veut encore fermer sa bouche. Parce que c'est elle qui va écraser. J'en suis persuadée.
Mais tu parlais de Dieu, fait toujours tenir les promesses, etc. Il a dit qu'il viendrait, mais il ne nous a pas dit quand.
C'est ça.
Donc ça peut être dans 400 ans.
Ça fait déjà 2000 ans qu'il est parti.
C'est ça.
C'est long.
Mais
pour
Dieu, c'est 1000 ans,
c'est comme un an. Le temps de Dieu, c'est pas le temps des hommes.
Exactement.
Il faut être prêt.
C'est pour ça qu'il faut toujours être dans l'espérance et dans la tradition de raconter l'histoire et de dire oui, ça va arriver.
C'est ça aussi, je trouve, le miracle de l'Église, c'est que depuis 2000 ans, l'Église raconte plus ou moins la même chose, avec le même espoir, la volonté de voir le Christ revenir, etc. Et donc, ça fait quand même pas mal de générations, par conséquent.
Combien ça fait
plus.
Sauf que...
Au cours de 4 générations par centre, à peu près.
C'est 4, c'est ce que tu disais.
400 ans, ça faisait 16 générations.
C'est pas 4, c'est au moins 5. Non, c'est pas 20 ans une génération.
Compte 25.
Ce qu'on m'avait dit, c'était 25 ans, à peu près. Ouais, surtout maintenant, ils ont des enfants plus.
De plus en plus tard.
Ça, c'est sûr. Ouais.
Donc, voilà.
Ça, c'est sûr.
Ok.
C'est intéressant de voir la continuité. De rattacher les événements là aux autres.
On ne fait pas toujours le lien.
C'est pas facile.
On n'a
pas cette culture-là.
Il faut avoir un ensemble.
On n'a pas cette culture-là.
C'est pas facile. Et avoir un ensemble, c'est pas évident. C'est juste.
C'est-à-dire qu'il faut quand même. C'est pas simplement une question de connaissance, parce que même moi, je suis obligé d'aller relire certaines sections. Parce que j'ai un doute, parce que la mémoire fait défaut par moment.
Et c'est une femme d'esprit, hein.
Écoute, c'est des textes que tu as lus, qu'on a lus.
Oui, le pire, on les connaît depuis qu'on est tout petit.
On a encore cette chance-là, quand on a baigné dedans.
Oui, c'est ça.
Ceux qui découvrent d'un bloc, je ne te parle pas, quoi.
Ah, voilà.
Voilà.
Ah bah oui, attends. Ouais, non. Moi je baigne, je vais dire, dans protestant. Dedans, à moi, oui, oui. Ouais. Je suis né dans une église, moi, ouais. Quelques années après. Mais, ben oui, mes parents étaient concierges.
Ben oui. Ouais, donc, alors ouais. Là.
Non, c'est pour ça que je t'ai dit, moi, voilà. J'ai découvert quand je me suis marié, quoi.
Ouais.
À cette époque-là.
Ouais, bah ça fait.
Donc,
ouais, ça fait,
ça fait quand même un fameux mariage. Ouais. Ouais. 53 ans, quoi.
53 ans que tu es tombé dedans.
53 ans qu'il est tombé dedans.
Ça, ça fait que deux générations, en fait.
S'il te plaît,
ça fait plus que moi. Mais tu n'as pas encore 53 ans.
Et c'est intéressant, hein, la manière dont tu abordes les choses, parce que justement, ça nous donne un esprit de continuité. Qu'on n'a pas nécessairement. Parce que tu peux très bien connaître, je ne sais pas, des quartiers à Liège. Si tu passes d'un quartier à l'autre quartier, tu vas faire tout un tour.
Oui,
parce que tu ne sais pas qu'ils sont à côté de l'autre.
Tu vois. Ah oui, donc
tu parlais de la transmission.
Ouais.
Mais quand on a des enfants et qu'on veut transmettre, on s'aperçoit que ce n'est pas toujours facile.
Ouais.
Ouais. Non, surtout la foi.
C'est pas facile. Nous, on a trois enfants, mais c'est pas.
Non, c'est pas facile, c'est vrai.
Et puis même s'ils acceptent certaines, comment je vais dire,
choses,
mais il y a un conjoint, et puis l'interprétation est différente, la vie est différente. C'est pas évident. Alors moi je dis 400 ans.
Ouais. C'est énorme. Oui, mais attention que les Juifs, ils se mariaient entre Juifs.
Les gens entre eux, oui.
Souvent.
Oui, ça renforce.
Souvent.
Mais là d'autant plus, puisqu'ils étaient esclaves, ouais, pas de possibilité.
Ils se mariaient pas avec les Égyptiens.
Ce qui n'était pas toujours vrai au temps des rois.
Ouais,
au temps des rois, malheureusement, il y a eu quand même pas mal de mixage de population.
Métissage.
Je posais aussi la question, est-ce que l'esclave de Danton, de cette époque-là, c'est le même esclave que nous? On s'imagine du temps de pendant la guerre, enfin, tu vois ce que je veux dire? Mais si, les esclaves qu'on a emmenés d'Afrique en Amérique, etc.
Oui, bah, est-ce que c'est les mêmes choses
des esclaves?
Tu travailles et tu fermes ta guerre. On les faisait construire les pyramides. Ils n'avaient une aide et tout ça.
Les canaux, tout le bazar. Creuser,
enfin,
c'est l'esclave,
oui.
C'est esclave.
Il y en a qui sont morts.
Moi, j'ai vu un film sur les esclaves, il y en a qui étaient bien,
bah,
bien, bien soignés. Hein.
Ouais.
Parce
c'est
que
la main d'œuvre.
C'était de la main d'œuvre, oui.
Ça, bon marché.
La preuve, c'est que quand même, quand ils sont sortis,
ils sont partis, oui, ils ont essayé d'aller récupérer.
C'est quand même bien,
mais ils
ont couru après.
Et les Égyptiens ont couru après.
Oui, en se disant, mais on n'a plus de main d'œuvre, on va pouvoir le faire nous-mêmes.
Ça veut dire qu'ils étaient quand même. Bon, ils étaient traités durement, ils travaillaient beaucoup, mais ils avaient quand même.
Ils avaient à manger.
Ils avaient
ta soupe tous les jours.
Mais non, ça ne valait pas.
Dans le désert, c'est sûr que
c'est. Le temps de Joseph, où ils étaient quasiment les princes du pays. Quoi. Après, l'esclavage, c'est quand même autre chose.
Oui.
Ok, est-ce que quelqu'un veut terminer par la prière?